Merci Tiffaine et bon week-end. Marina Tsvetaeva et Anna Armatova, et ce qu'elles peuvent bien nous faire. L'une fait écrire Vénus Kurigata, l'autre permet à Sophie Benesch un éloge de la traduction.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Sophie Benesch, Vénus Kurigata, bonjour, bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Une petite heure, hein, seulement une heure même, hein, pour évoquer deux phares immenses dans le siècle de l'ogre Staline, Marina Tsvetaeva et Anna Armatova. La première née en 1892, la seconde en 1889. La première admire en follement la seconde. Marina écrira pour Anna, à Anna, sur Anna. Elles se croiseront seulement deux petits jours, hein, je crois, en 40, quelques semaines, quelques mois avant que Tsvetaeva ne se pende, à Elabouga, quelque part à l'est du pays, épuisée par des années d'exil, de misère, d'abandon et de silence littéraire, des années sans chambre à soi pour écrire, une scène tragique qui origine le roman que vous signez aux éditions Mercure de France, Vénus Kurigata, scène à partir de laquelle défilent les souvenirs, les motifs, les mots, les images de l'auteur du poème de l'escalier, du ciel brûle, du charmeur de rats, d'une correspondance infinie et terriblement, j'allais dire, toujours amoureuse. Un personnage difficile à aimer, disait d'elle Tsvetan Todorov. Véronique Loski, qui a traduit Tsvetaeva aux éditions des Sirtes, son œuvre complète, et lui a quasiment consacré sa vie, parler à son propos d'une affreuse bonne femme. Et voilà ce qu'écrit l'écrivain Ehrenburg, hein, au sortir d'une soirée consacrée aux poétesses russes, c'était juste avant l'exil. Attitude orgueilleuse, front haut, cheveux coupés courts, visage de garnement effronté, Marina Tsvetaeva glorifie en un fougueux pathos une insolence digne des plus grands hérétiques, philosophes ou insurgés. Ses excellents vers resteront comme restera sa soif de vivre et de tout détruire, lutte d'un seul contre tous et l'amour glorifié par la mort qui rôde. Alors après avoir lu ses poèmes, ses carnets, ses lettres, son journal, j'imagine, à Vénus Kurigata, est-ce qu'elle est vraiment si difficile à aimer ?
Elle ne pouvait pas être agréable aux gens parce qu'elle était misérable. C'est la plus misérable des êtres mis sur Terre. Du jour au lendemain, c'est la guerre civile, des kolkhozes s'emparent de l'appartement de ses parents. Elle est dans une loge de concierge avec ses deux filles. Il y a la misère. Elle mange des épluchures de pommes de terre. Sa petite fille meurt à 3 ans de famine. Son mari n'a pas de ses nouvelles pendant 7 ans. Comment vous voulez qu'on soit agréable quand on est aussi misérable? Elle n'était pas aimée, non, vous venez de le dire. Elle ne pouvait pas être aimée parce que c'était une grande gueule, une grande amoureuse, une grande gueule, une grande misérable.
La question se posait aussi à vous, Vénus Kurigata. Est-ce que vous, en travaillant sur elle, hein, est-ce que vous avez fini par l'aimer? Est-ce que vous l'avez aimée? Est-ce que vous avez commencé par l'aimer?
Elle me fait pitié et je l'admire. Je ne sais pas si on peut l'aimer. Elle m'a fait mal. Être plongée dans l'écriture de la vie de Tsvetaeva pendant 6 mois, de 9h du matin jusqu'à 6h du soir, elle a fini par déteindre sur moi. Elle m'a donné sa dépression. J'étais tout le temps en train de me dire « Ah, il y a de quoi se pendre !» Je me disais « Pourquoi je dis « il y a de quoi se pendre » pour pour des vétilles ?» Et finalement, le livre se termine par sa pendaison à elle. Elle s'est pendue à un grenier chez des paysans, comme vous venez de le dire. Et la Bouga, où il y avait la misère qui la poursuivait de ville en ville, de pays en pays, et n'a jamais pu échapper à la misère, n'a jamais pu échapper à la cruauté de son fils, le fils de l'amour qu'elle a eu avec son amant, Rodetsky, et qui était tout le temps en train de l'insulter, de l'injurier. Tu y es là, c'est toi qui amènes le malheur dans ma vie, c'est toi qui ceci, c'est toi. Il l'a chargé de tous les maux de la terre. Halle qui était en train de gratter les signaux tous les jours, parce que la boucle, c'est un bourg de paysans. Elle grattait la terre pour retrouver des pommes de terre gelées, oubliées par les paysans pour nourrir ce fils de 15 ans qui lui en voulait tout le temps.
Mour, s'appelait-il.
Mour, l'enfant de l'amour, l'enfant de Rodetsky, qui ne l'a pas gardé. Personne ne l'a gardé. On l'aimait peu, un peu de temps, et puis après, on l'a rejeté. Il y avait le rejet de l'Union des écrivains, le rejet des Russes blancs de Paris quand elle est venue. On l'a laissée pourrir dans sa misère.
Sophie Benesch, vous qui avez approché en traductrice et ou en éditrice Armatova, Pasternak, Chalamov, Babel, Nadejda Mandelstam et bien d'autres, vous avez approché Tsvetaeva, je crois, par un seul petit objet un peu étrange, publié par votre maison d'édition, qui s'appelle Le Gardien des Livres, avec des textes de Mikhaïl Ossorgine, des illustrations d'Alexei Remissov, et puis quelques poèmes de Tsvetaeva de 1919. Est-ce qu'il y a quelque chose, à la lumière de ce que vient de dire Vénus Kourigata, qui vous aurait tenu, d'une certaine façon, un peu éloigné de Tsvetaeva?
C'est vrai, j'ai traduit que quelques poèmes d'elle, hein, parce qu'ils se trouvaient donc dans ce livre dont vous avez parlé.
Édition Interférence.
Personnellement, je pense que Tsvetaeva, c'est un très très grand poète, mais je me sens personnellement plus proche d'Akhmatova. Son destin est apparemment moins tragique que celui de Tsvetaeva, mais en réalité tout aussi tragique que celui de Tsvetaeva.
C'est-à-dire qu'elle, elle est restée. Hein, elle a choisi de rester, oui, et elle a été frappée d'interdiction de publier et d'écrire comme tant d'autres. Pendant longtemps. Alors, vous parlez de grande dame, Sophie Benesch, à propos d'Anna Armatova.
Si vous voulez, je peux vous lire un tout petit passage qui a été écrit par Lydia Tchoukovskaya sur les raisons pour lesquelles Armatova est moins connue en France, par exemple, que Tsvetaeva, et moins traduite. Elle parle de Mandelstam, mais je pense qu'on peut remplacer aussi Mandelstam par Tsvetaeva. Il est possible de traduire Mandelstam ou Tsvetaeva, mais Pushkin ou Akhmatova sont intraduisibles. Les particularités du style sautent aux yeux chez Mandelstam, Mayakovsky ou Marina Tsvetaeva. Elles sont beaucoup plus nombreuses que chez Anna Akhmatova ou Pushkin. Dans les cas de Mandelstam ou de Tsvetaeva, le traducteur a au moins où se cramponner s'il n'arrive pas à faire une traduction convenable. « Je suis très douce, je suis limpide », a écrit Akhmatova en se moquant malicieusement des lecteurs, alors qu'elle est violente et compliquée. La complexité et l'originalité de Mandelstam ou de Tsvetaeva sont tellement évidentes que cela facilite la tâche du traducteur, encore que cette affirmation puisse paraître paradoxale. Mandelstam étonne dans sa langue maternelle, et je suppose que c'est le cas dans les entrelangues aussi. Chez Akhmatova, des trouvailles étonnantes sont présentées d'une telle façon qu'elles passent inaperçues.
Une grande dame qui n'était pas une grande gueule comme Tsvetaeva.
Je crois que Sophie Benesch n'est pas d'accord.
Mais l'histoire, le temps lui a donné ce qu'elle mérite. On sait que c'est une grande poète. Je n'aime pas le mot poétesse.
C'était une personnalité à la fois, c'était une grande dame, je vous dis, un peu très intimidante. Mais elle avait aussi des côtés, comme le raconte Nadejda Mandelstam, où elle pouvait faire la fofolle. Elle aimait beaucoup boire, elle aimait faire l'imbécile, elle aimait jouer des rôles, elle aimait faire des plaisanteries. C'était un esprit très très caustique, parce que en fait, Akhmatova, non seulement c'était un grand poète, mais c'était une femme extrêmement intelligente.
Et intimidante.
Elle pouvait être intimidante quand elle le voulait, oui. J'aimerais bien vous lire encore un autre poème.
Mais bien sûr, je vous en prie.
Qu'a écrit Akhmatova, parce que les quatre grands poètes au début du siècle, qui sont nés à quatre années de différence, Akhmatova, Mandelstam, deux Pétersbourgeois, Pasternak et Tsvetaeva, deux Moscovites, deux femmes, deux hommes. Et elle a écrit un poème, Akhmatova, qui s'appelle « Nous sommes quatre ». Et elle va parler des quatre grands poètes. Et je précise qu'elle est celle qui a survécu le plus longtemps, puisqu'elle est morte en 66. Et quand elle est morte à son enterrement, on a dit... Voilà la dernière des immortelles qui meurt. Elle était la dernière représentante du siècle d'argent qui est restée jusqu'au bout et qui a survécu aux trois autres. Nous sommes quatre. Et j'ai renoncé ici à toute chose, renoncé à tous les biens terrestres. L'esprit, le gardien de ces lieux, n'est qu'une branche de bois mort. Dans cette vie, nous sommes tous en visite. Vivre, c'est juste une habitude. Je crois entendre dans l'espace aérien deux voix qui s'interpellent. Deux ? Mais voici près du mur côté est, dans de robustes buissons de framboises, une branche de sureau sombre et fraîche. C'est une lettre de Marina.
C'est beau.
Merci, je précise que la traduction est vôtre.
Oui, c'est un essai de traduction, oui.
Alors, c'est au cœur de la langue d'Armatova que vous plongez littéralement, Sophie Ménèche, même de la machine de la langue, hein, le temps d'un bref essai aux éditions Le Bord de l'eau, au programme l'une de ces sept élégies du Nord, hein, qui sont ces sortes de poèmes destin ou poèmes autoportraits, et vous en faites un essai mot à mot qui fouille six traduction de cette même élégie et qui finalement se présente moins comme une recherche de la juste traduction ou le fantasme de la juste traduction que comme un éloge des traductions et avec elle du traducteur. Un des six poèmes de Marina Tsvetaeva mis en musique par Shostakovich en 73, interprété par Julia Varadi, paru sous le label Decca, choisi par vos soins, Vénus Kurigata. Qu'est-ce que vous entendez d'elle, hein, dans cette musique, hein?
C'est une musique trop, je dirais, très belle et très lyrique et très douce pour celle qui était tout le temps en état d'ébullition. C'était une femme qui, les événements de sa vie déteignaient sur son caractère. Plus elle était misérable, plus elle était rejetée, plus elle devenait acide, je dirais, aigrie, et plus son écriture devenait hachée, devenait syncopée. Des derniers recueils qu'elle avait publiés étaient insupportables de cassure entre les vers. Elle voulait casser le lyrisme, casser les images. C'est une femme qui a exploré le langage beaucoup plus que ses contemporains.
Vénus Kurigata, vous vous glissez dans les mots, dans les poèmes, dans les journaux, dans les notes, dans les carnets, dans les lettres surtout, hein, ces milliers de lettres aux amants, aux amantes, et vous reprenez d'ailleurs vous-même la forme de la correspondance, puisque vous lui adressez ce récit qui va rassembler les bouts et parts de sa vie, en tout cas qui va tenter, dites-vous, de les rassembler, c'est-à-dire cette enfance bourgeoise lettrée, sa jeune gloire de poétesse d'avant-guerre, le Moscou terrible de la guerre civile, Berlin, la banlieue de Prague où elle rejoint son mari avec la fille qui lui reste, puis le Paris triste et misérable mais très fécond, particulièrement fécond pour sa langue, hein, dans les années 20 et 30 avec Moore, le fils et sa fille et son mari, et puis le retour à Moscou en 39, sa fille, son mari arrêté, l'abandon total et les derniers courages, et puis la fin, on l'a bien dit. Elle qui a tant été recouverte par sa biographie, qui, je pense d'ailleurs que sa littérature en a souffert, hein, de ce destin tragique qu'on a parfois peut-être trop lu au travers de cette biographie. Pourquoi la choisir, elle ? Qu'est-ce que vous saviez d'elle avant de vous plonger dans ces 750 pages de journal, hein ?
Je connaissais ses poèmes, c'est tout. Puis j'ai été en contact avec ce que les autres n'ont pas eu, les cahiers, les journaux qui ont été publié chez Lafont avec Todorov qui a fait la préface. Donc j'avais une mine en or sous les mains Et il fallait creuser en profondeur ce malaise qu'elle avait face au monde. Pourquoi cette femme s'était tellement jetée à corps perdu dans les amours avec n'importe qui, quand elle était à Moscou dans cette loge de gardienne crasseuse avec des meubles brinque-ballant, avec sa fille Alia qui faisait le ménage à 8 ans et qui écrivait à la même table que sa mère. Pourquoi elle recevait tellement d'hommes qui rentraient, qui sortaient, des femmes. Pourquoi tant d'amour, comment vous dire, vrai ou faux, on ne sait jamais. Traînant des deuils et des infidélités derrière elle, des infidélités avec des femmes, avec des hommes, rien, tout était bon pour oublier, pour s'oublier, pour s'appuyer sur quelqu'un, pour faire croire qu'elle est aimée, pour se faire croire qu'elle était aimée. Elle arrive à Berlin, avant Prague, et là, elle tombe amoureuse de tout ce qui parle d'elle en bons termes. Son éditeur, il lui signe un contrat à midi, elle lui envoie une lettre d'amour le soir. Un journaliste, un critique littéraire, écrit un article sur elle et lui envoie des lettres d'amour à n'en plus finir jusqu'au point de l'étrangler. Il a 10 ans de moins qu'elle. Elle l'appelle mon petit, je t'aime, tu dois m'aimer, des trucs comme ça. Elle était autoritaire, elle pouvait pas être aimée comme Akhmatova qui était une grande dame. Donc elle lassait les gens et ce qui fait que de ville en ville, elle traînait le malheur derrière elle. Elle n'a jamais, il s'attachait à ses pas, le malheur. Et quand à Prague, elle retrouve ce mari. Elle trouve moyen de tomber amoureuse de son meilleur ami et de lui faire un enfant et se faire croire que cet enfant était l'enfant de Pasternak. Or, elle n'avait pas vu Pasternak depuis 7 ans, mais il s'écrivait tous les jours, il s'envoyait des lettres. C'était l'enfant écrit. Et quand l'enfant naît, le pauvre Serge, son mari, cherchait un nom à l'enfant qui n'aurait pas un nom d'un amant de sa femme. Il a cherché tout le calendrier.
Elle voulait l'appeler Boris, elle.
Il n'a trouvé que Georges, mais elle l'a appelé Moore, elle. Et Rodetsky, qui était le vrai père, parce qu'il ressemble beaucoup à Rodetsky, s'est détaché d'elle, il s'est détaché de lui. Elle est venue en France croyant qu'elle allait trouver le bonheur en France, que là on va la publier, que le pays des lettres et de la poésie, pas du tout, rejet du milieu littéraire, rejet des poètes. Quand il y a eu un grand colloque à la Sorbonne, elle avait traduit de Pouchkine, on n'a pas retenu cette traduction, on a pris les traductions d'une petite jeune demoiselle qui était la copine du monsieur qui avait organisé, l'organisateur de ce colloque. Non, il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi injustement traité que cette femme.
Alors, il en est une de voix qui l'a justement traité, qui en tout cas en a beaucoup parlé, vous venez de le dire, Vénus Kourigata, et cette voix, c'est celle-ci.
Le but de la poésie pour Tsvetaeva, c'est de révéler l'identité du monde. Le poète est un être un peu possédé qui écrit comme sous la dictée du monde lui-même. Tsvetaeva disait qu'elle souhaitait pour son épitaphe que sur sa tombe, sur la pierre tombale, on écrive pour elle « sténographe de l'être ». C'est-à-dire de quelqu'un qui se contente de transcrire ce que le monde lui dicte, plutôt que d'exprimer le caractère unique de son identité, de son individualité. Vivre, écrire, et écrire, c'est vivre, était l'une de ses formules définissant son existence. Elle adresse même un reproche respectueux à des personnages comme Rilke, comme Proust, comme Pasternak, c'est-à-dire ceux qui constituent son panthéon personnel, un reproche que ces grands auteurs aient quelque peu négligé la vie privée, la vie personnelle, la vie de l'amour, la vie du dévouement pour ses proches, que pour Tsvetaeva, on doit mener dans un seul mouvement et avec le même idéal d'intensité et d'aspiration à l'absolu. Elle dit aussi, bien écrire, ce n'est pas bien enchaîner les mots, c'est être la personne qui vit intensément et qui parvient à trouver les mots pour exprimer cette expérience unique. La qualité du poète vient de son être, non pas d'une maîtrise quelconque des rimes et des rythmes. Il n'y a pas de technique, elle laisse là aux critiques littéraires. Elle dit aussi, moi je ne suis pas spécialiste de la littérature, ma spécialité c'est la vie. Ma profession, c'est la vie.
C'est magnifique.
C'est la voix de Tsvetan Todorov, hein, au micro d'Adèle Van Rett. Hein,
c'était que je suis émue. C'était... Je lui ai dédié mon livre alors qu'il est mort. J'aurais voulu qu'il le voie, que c'est pour lui que j'ai écrit ce livre.
Alors, c'était dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, le 22 juin 2015, sur l'antenne de France Culture, bien sûr, et je voulais préciser...
Il parle de la stèle, de la... il aurait voulu qu'on grave sur la stèle, il le dit. Eh bien, il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de pierre tombale, et il y a juste une motte de terre, on ne sait même pas laquelle, sous laquelle est enterrée cette femme, et son fils n'a même pas assisté à son enterrement.
Est-ce que de travailler cette langue, Vénus Corrigata, vous a imposé à vous une autre langue, ou en tout cas une autre cadence ?
On est imbibé de la vie de celui qu'on décrit, de son écriture aussi. Alors elle déteint sur nous. La fin de mon livre est écrite à la manière de Svetaïeva. Elle est hachée, elle est syncopée, elle court d'une maison de retraite à une autre maison de retraite. Elle va d'une ville à une autre quand il y a l'armée allemande qui envahit Moscou. Moscou est vide, on envoie tous ces poètes,
l'Union des écrivains, les poètes,
hein. On les envoie dans des camions. Tout le monde descend à Tchibostol. Elle, la seule, on l'envoie, et la bougue à un bourg de paysans. On la met chez des paysans qui ne parlent pas sa langue, des Tatars, et qui ne supportent pas la présence de cette femme, qui gratte la terre pour trouver des pommes de terre, et qui se dispute avec son fils qui l'injurie. Donc, il y a trop de matière à dire, et mon écriture est devenue plus rapide, plus féroce, plus dure. Elle a épousé les états d'âme de cette femme.
Alors, au fil des pages, disparaissent Goumiliev, le premier mari d'Armatova, fusillé, Essénine, fusillé, Mayakovsky, suicidé, Mandelstam, jeté dans la fosse commune, Bloch, mort faute de soins, Tsvetaïeva, donc suicidé. Au-delà d'écrire la terreur, d'écrire une époque, c'est ce que vous avez fait avec Mandelstam, c'est ce que vous poursuivez avec Marina Tsvetaïeva. Écrire sur la mort des poètes, hein, au fond, c'est écrire sur quoi, Vénus Corrigata ?
Sur le rejet que nous autres vivants vivons aussi, parce que l'époque n'est plus à la poésie.
Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre, hein, Vénus Corrigata ?
Impatient de se battre aux côtés des Blancs, ton mari Serge rejoignit l'armée des rebelles, te laissant seule avec tes deux filles. Seul et demi-nuit, tu ne pouvais faire appel à personne. Plus de courrier depuis que les groupes rebelles s'étaient partagés le pays et plus de nouvelles de Serge. Penser à lui n'améliorait pas ton quotidien. Ce poème l'illustre. Je viens vers toi dans la nuit noire comme vers le dernier recours. Je suis les ronds privé de famille, le navire qui coule, les imposteurs, les chiens, rapaces m'ont dépouillé de sous, aux portes de ton palais, ô mon seul roi, je ne suis plus qu'une mentiante.
Merci beaucoup. Merci Vénus Corrigata. D'une voix à l'autre, et magie de la transition, on écoute son poème, le poème de Tsvetaïeva à Armatova, celui de 1916, mis en musique et interprété par Elena Frolova.
Кем полосенька твоя нынче выженится, чернокосенька моя чернокнижница, дни полночные твои, век твой таборный, все работнички твои, разом забраны. Где сподручники твои, те сподвижники? Белорученика моя, чернокнижница, не загладить тех могил слезой славою. Один заживо ходил, как удавленный, другой к стеночке пошел искать прибыли. И гордец же был сокол, разом выбыли. Высоко твои, братья, не докличешься. Ясноокника моя, чернокнижница, а из тучи-то хвала диво дивная. Соколиная стрела, голубиная, знать в два перышка тебе пишут тамотка, знать уж в скорости тебе выйдет грамотка, будет крылышки трепать облыженники. Чернокрылника моя, чернокнижница, будет крылышки трепать облыженники. Чернокрылника моя, чернокнижница. Кем полосника твоя нынче выженится, чернокосынька моя, чернокнижница?
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Ce qu'on vient d'entendre n'est pas le poème de Tsvetaïeva à Armatova, une espèce de collage.
Oui,
de,
je ne sais pas, il faut que je vérifie ce que c'est que ce poème.
De texte. Néanmoins, donc, Tsvetaïeva a écrit à Armatova, sur Armatova, pour Armatova. Le texte, le poème qu'elle écrit en 1916 pour Armatova, peut-être que vous voulez bien nous le lire, Sophie Benesch, ce texte-là, elle l'écrit en 1916, c'est-à-dire qu'elle est toute jeune. Qu'est-ce que ça veut dire d'Armatova, de la position d'Armatova déjà en 1916, pour qu'une jeune poétesse comme Tsvetaïeva lui écrive déjà un poème? Qu'est-ce qu'elle représentait à l'époque, Armatova?
Elle avait déjà, c'était déjà une poète, un poète reconnu, enfin une poétesse reconnue, qui est devenue célèbre tout de suite dès la parution de son premier recueil. Elle était mariée à un autre poète qui l'avait introduit dans le milieu artistique de Saint-Pétersbourg. Et donc elle est devenue tout de suite. En plus, c'était non seulement elle était reconnue comme poète, mais c'est aussi une personnalité. Elle était très belle. Elle avait une présence et une prestance qui lui donnait une place dans le, justement dans le milieu littéraire artistique, dans les cabarets, les cafés. Et Tsvetaïeva a écrit plusieurs poèmes passionnés, extrêmement exaltés à Armatova. Et Armatova, qui était beaucoup plus réservée comme personne, lui a écrit aussi très peu de poèmes, donc je vous en lirai deux particulièrement, mais là je vais commencer par vous lire une traduction du poème que d'un des poèmes que Tsvetaïeva a dédié à Armatova. Et
c'est celui de 1916. Donc.
Oui, et qui commence par « Aux muses des pleurs, la plus belle des muses », et qui est devenu proverbial, si bien que pendant des années on a désigné Armatova en l'appelant la muse des pleurs. Ô muse des pleurs la plus belle des muses, fille maudite, éperdue des nuits blanches, tu lances sur la Russie ta noire tourmente et tes plaintes nous percent comme des flèches. Et nous titubons, et nos milliers de « Ah !» sont le serment que nous te prêtons, Anna Akhmatova. Le long soupir de ton nom tombe dans un abîme que l'on ne peut nommer. Fouler la même terre que toi et vivre, sous le même ciel, c'est être couronné. Et ceux qui sont blessés à mort par ton destin, sur leur lit de mort se couchent immortels. Dans ma ville chantante brûlent les coupoles, un vagabond aveugle va louant le sauveur. Et moi, je t'offre ma ville aux mille cloches, Akhmatova, et je te donne aussi mon cœur. Donc c'est la moscovite qui s'adresse à la pétersbourgeoise aussi. Fille maudite, éperdue des nuits blanches, parce que Akhmatova est originaire de Saint-Pétersbourg, avec ses nuits blanches bien connues, et elle termine en disant « Et moi, je t'offre ma ville aux mille cloches », c'est-à-dire Moscou, la ville aux mille clochers, aux 40 fois 40 clochers. Et elles se sont retrouvées en évacuation, toutes les deux. Au moment de la guerre, elles ont été évacuées. La pauvre Tsvetaeva, qui n'était pas rentrée uniquement par misère, mais aussi pour suivre son fils et son mari, qui était pro-soviétique, Marie ayant travaillé pour le NKVD quand même. Elles se sont retrouvées toutes les deux évacuées. Elles sont allées, alors, Akhmatova a d'abord été envoyée à Tchistopol avec beaucoup d'écrivains, et ensuite elle était emmenée à Tashkent avec les autres écrivains, et Akhmatova s'est retrouvée dans ce petit village d'Elabouka. Plusieurs personnes ont essayé de lui venir en aide et de la faire transférer à Tchistopol. Et malheureusement, ça n'a pas réussi.
Donc Pasternak, il a essayé.
Mais oui, parce que tous les écrivains étaient, la plupart des écrivains étaient
à
Tchistopol. Et ensuite à Tashkent, pas seulement les écrivains, mais les musiciens. Il y avait des théâtres entiers qui étaient évacués là-bas. Bon, il y a plein de petites histoires entre... Tsvetaeva racontait que Akhmatova gardait contre elle... contre son cœur, un poème ou une lettre qu'elle lui avait été écrite. Akhmatova a toujours dit que c'était complètement faux. Enfin, il y a plein de petites histoires comme ça. Mais en revanche, elle avait une sorte de remords de ne pas avoir répondu à l'amour que lui vouait Tsvetaeva. Et elle a écrit un poème que moi, je trouve très triste, qui s'appelle donc « Réponse tardive ». Ma petite sorcière aux blanches mains, mon invisible, mon double, mon oiseau moqueur, pourquoi te caches-tu dans les buissons noirs? Tantôt tu surgis sur des croix abattues, tantôt tu te tapis dans de vieux nichoirs, ou bien tu cries de ta haute tour. Me voilà aujourd'hui, chez moi revenu. Regardez donc, mes chers labours, ce qui m'est pour cela advenu. Mes proches ont été engloutis par l'abîme, la maison de mes pères a été saccagée. Aujourd'hui, toi et moi, Marina, nous marchons dans la ville enténébrée. Derrière nous, ils sont des millions, et il n'est pas de cortège plus silencieux. Tout autour, des glas funèbres, et dans Moscou, les plaintes rauques de la bourrasque qui efface nos pas. Il faut se souvenir que quand Tsvetaeva est rentrée, son mari a été arrêté, il a été exécuté. Et quant à sa fille, quelques mois plus tard, qui était rentrée aussi remplie d'illusions sur l'Union soviétique, elle a été elle aussi arrêtée quelques mois plus tard, et elle a été envoyée dans des camps pendant des années. Hein. Donc, elle est rentrée chez elle. Elle n'avait pas envie de rentrer, Marina Tsvetaeva. Elle savait ce qui l'attendait en Union soviétique. Et quand elle est rentrée là-bas, elle a trouvé, comme elle dit, ses proches arrêtés, sa maison saccagée.
Sophie Benesch, Akhmatova, vous l'avez approchée par plusieurs voies, hein, comme éditrice, comme traductrice pour les éditions Interférence, hein, puisque vous avez notamment traduit son célèbre poème Requiem, hein, qui est donc écrit au plus noir de la terreur stalinienne. Vous l'avez approché encore par la traduction de l'essai de Nadezhda Mandelstam sur Akhmatova pour les éditions Le Bruit du Temps. Beaucoup d'Akhmatova, vous avez traduit les élégies, les fameuses élégies dont on va parler, puisqu'on va parler de la sixième élégie en particulier, puisque vous lui consacrez une étude aux éditions Le Bord de l'eau. Alors une étude un peu particulière, hein, parce que ça ressemble effectivement un peu à de la traduction comparée, à une étude de traduction comparée. C'est en même temps une sorte d'éloge des traductions, au pluriel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, hein, sans que au fil de la lecture, qui est une lecture vraiment mot à mot, vers à vers, strophe par strophe, on le lit non pas comme la recherche de la justesse d'une traduction, ou en tout cas, ou l'élection d'une traduction, mais plutôt comme une tentative d'explication de ce que chaque traduction peut bien vouloir dire de son traducteur, d'une certaine façon.
D'abord, quelques mots sur les approches d'Akhmatova. C'est vrai qu'il se trouve qu'elle entrait dans ma vie. En fait, quand j'ai vécu en Union soviétique et que j'ai lu ses poèmes qui me hantaient, il se trouve que je l'ai édité, il se trouve que j'ai traduit les souvenirs de Nadezhda Mandelstam sur elle et que je suis en train de travailler, toujours pour les éditions Le Bruit du Temps, sur reprendre et traduire ce qui n'a pas été traduit des souvenirs de Lydia Tchoukovskaya sur Akhmatova, qui est remplie de poèmes et de citations d'elle. Donc c'est vrai qu'elle est très présente en ce moment, par exemple. Le petit livre que j'ai écrit, en fait, c'est au cours d'une conversation avec Nicolas Martin, qui s'occupe de la collection aux éditions Le Bord de l'Eau, qui s'appelle « Exercice de style ». Et au cours de la conversation, je lui ai dit que ça m'avait toujours intéressé de prendre un poème et puis de regarder la façon dont plusieurs traducteurs l'ont traduit et d'essayer de comprendre. Il m'a dit « Ah, très bonne idée, faites quelque chose là-dessus ». Et ce qui m'a obligée à mettre en mots pas mal de choses auxquelles j'avais déjà pensé en traduisant. Et j'ai donc choisi un poème, une des élégies de Akhmatova. Et il y a vraiment deux choses que j'ai gardées à l'esprit en écrivant ce livre. C'est d'abord, je voulais écrire un livre qui soit pas du tout universitaire et qui soit pas du tout pour spécialistes. C'est-à-dire que je voulais que tout lecteur qui s'intéresse un peu à la langue, à la poésie, mais qui n'est pas du tout traducteur, qui n'a jamais réfléchi sur ce que c'était que la traduction, qu'il prennent plaisir à le lire et qu'ils le lisent sans être ennuyés. C'est pas je voulais vraiment pas que ce soit une étude sur la prosodie russe avec des détails techniques.
Même si on en apprend beaucoup.
Je voulais
même
que ce soit
sur l'architecture et la structure
et
de
ça,
la langue.
Et c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais, l'autre chose, c'était, j'ai pris 6 traductions que je compare pas, je donne pas de notes. C'était vraiment, je voulais absolument pas faire ça. Je pars du principe que tout traducteur qui essaye de traduire un poème, il le fait par amour. Parce que la poésie, c'est effectivement intraduisible. Parce que...
C'est peine perdue, hein. C'est ce que vous commencez par dire.
Oui, parce que le matériau de la poésie, de même que le matériau d'un sculpteur, c'est la pierre, ou d'un peintre, c'est la couleur, le matériau d'un poète, c'est le mot. C'est-à-dire que on peut pas séparer le mot de ce qu'il dit. Et c'est différent dans chaque langue. Donc, obligatoirement, un poème russe, en dehors du russe, il est perdu. Et personne ne peut mieux apprécier ça qu'un quelqu'un qui parle russe. Donc, obligatoirement, un traducteur aussi, il apprécie, il sait très bien qu'il n'arrivera jamais à traduire ce poème. Mais il a quand même envie de le traduire, à la fois par un défi envers soi-même, aussi pour le faire partager à d'autres. Parce que quand on aime quelque chose et qui vous procure un plaisir immense, on a envie de le faire partager. Et ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que on est obligé de faire des choix et qu'on choisit selon...
De renoncer, de sacrifier.
Voilà, on choisit selon sa sensibilité. On estime qu'il vaut mieux sacrifier un tout petit peu le sens pour garder le rythme, ou alors qu'il vaut mieux sacrifier le rythme parce que le sens est trop important. C'est dans ce sens-là que chaque traduction vaut la peine d'être faite et vaut la peine d'être lue. Et je dirais, par exemple, franchement, que dans les 6 traductions, j'ai un ami qui, lui, celle qu'il préfère, c'est celle que j'aime le moins. Ce qui, pour moi, la preuve qu'elle a une raison d'exister. C'est pour ça qu'à la fin, je donne les 6 traductions. Et libre au lecteur français de lire les 6 traductions, même carrément sans regarder le nom du traducteur, peu importe, et de choisir celle qui lui parle le plus. Et d'un autre côté, avoir les 6 traductions permet d'avoir un éventail, parce que dans le texte original, il y a un éventail de sens, une ambiguïté beaucoup plus grande que dans la traduction, parce que quand on traduit dans une langue étrangère, souvent on est obligé de choisir un des sens, alors qu'en russe, par exemple, le mot a une gradation de sens, et là, on ne peut pas choisir cette gradation de sens, parce qu'en français, le mot n'a pas la même gradation de sens. Donc avoir 6 traductions, quand on aime un poème ou un poète, ça vaut la peine aussi, hein.
Alors, voici ce que dit Akhmatova dans un poème daté de janvier 40 et que vous citez, Sophie Benesch, hein, dans votre essai. « Je n'ai que faire des odes, de leurs armées, ni du charme capricieux des élégies. Pour moi, tout dans les vers doit mal tomber. Rien ne doit être comme il faut. Si vous saviez de quel débris se nourrit et pousse la poésie sans la moindre honte, comme les pissenlits jaunes, comme la roche ou la bardane au pied des palissades. » Un cri de colère, l'odeur du goudron frais, le mystère d'une tache de moisie sur un mur. Et voilà qu'un vers teinte, malicieux et tendre, pour votre joie et pour la mienne. Alors, c'est une traduction vôtre, je le précise à chaque fois. Alors, évidemment, là, la question, ce vers, et voilà qu'un vers teinte, malicieux et tendre, alors j'imagine, donne la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure de savoir s'il fallait privilégier le rythme, la musique, ou privilégier le sens, qui est un marronnier hein, de la traduction de la poésie, mais qui se pose particulièrement dans le passage de la langue russe à la langue française, j'imagine. Et je voudrais revenir aussi sur ce vers « Je n'ai que faire des hôtes de leurs armées, ni du charme capricieux des élégies », puisqu'il est question d'élégies et que vous en avez choisi une hein, pour ce projet, Sophie Bénèche. Qu'est-ce qu'il reste de l'élégie si elle est débarrassée de son charme capricieux ? D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut croire Armatova quand elle dit ça.
Très bien.
En fait, dans la suite du poème, elle explique ce qui est les principes acméistes. L'acméisme, c'est un mouvement qui a choisi, où les poètes qui ont été acméistes au départ, veulent rendre leur sens premier aux mots, c'est-à-dire parler de la réalité telle qu'elle est, et pas de quelque chose d'évanescent, d'éthéré, de ce que représentait la poésie symboliste. Donc c'est dans ce sens-là, je pense, qu'elle dit ça, puisque la suite, elle dit qu'elle aime, on trouve de la poésie dans une tache de moisie,
dans une tache d'encre.
Juste une toute petite remarque, c'est quand elle dit aux teintes.
Oui, teinte. Et voilà qu'un vers teinte, malicieux et tendre.
Il y a aussi une allusion au fait qu'elle écrivait à la machine à écrire. Et vous savez, quand on faisait reculer le chariot de la machine à écrire, il y avait une petite sonnette. Donc il y a ça aussi qui est présent dans ce vers, mais qui se sent mieux dans le texte russe que dans le texte français. Quand j'essaye de le rendre, quand je dis teinte, mais je ne sais pas si tout le monde entend. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'entende en russe non plus. Mais...
Qu'est-ce qui, chez Armatova, appelait cet exercice-là en particulier ? C'est-à-dire, dans la langue d'Armatova, peut-être même plus particulièrement dans les élégies, peut-être plus particulièrement dans la sixième, celle que vous avez choisie, en fait, qu'est-ce qui a guidé ce choix-là ?
Ça, ce n'est pas une question de poésie, c'est plutôt une question...
C'est dans l'autre sens,
en fait. C'est plutôt une question du fait que j'aimais le poème. Parce que je pense que pour traduire un poème, il faut l'aimer. Si on peut pas traduire sur commande, c'est-à-dire si on me dit est-ce que vous pouvez me traduire des poèmes de ce poète que je n'aime pas ? Non, je le traduirai jamais. En fait, le poème se traduit, c'est-à-dire vous le lisez, je le lis en russe, mais immédiatement j'ai envie de le traduire, même si je trouve pas tout de suite comment faire, mais j'ai un bout de vers qui me vient.
Vous dites qu'il se traduit tout seul.
Il se traduit, il a envie de se traduire, quoi. C'est obligatoirement, c'est ça. Si j'ai choisi l'élégie, c'est parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle élégie.
Vous voulez bien nous la lire en français ?
En plus,
on entendra Anna Armatova après.
Elle est très universelle parce qu'elle parle, ses autres élégies, elles sont plus situées dans sa vie à elle et en Russie, tandis que cette élégie-là, c'est une élégie sur le souvenir. Elle est intemporelle, quoi. Et aussi, ce que je dis au début de mon livre, elle est en vers blanc. Parce que le problème des rimes est un problème très compliqué, dont on peut parler un peu après. Faut-il traduire en rimé ou pas ? Et ça, c'est une question très, disons, brûlante, surtout entre les traducteurs russes et français. Donc je vous lis la troisième élégie dans ma traduction. Hein, les cinq autres traductions, vous pouvez les lire dans mon livre. Les souvenirs en nous vivent trois âges. Le premier, il semble que c'était hier. L'âme demeure sous leur voûte bénie et le corps ravi à leur ombre repose. Le rire vibre encore, les larmes coulent, la tache d'encre est toute fraîche et scellant notre cœur l'empreinte du dernier baiser, unique, inoubliable. Mais cela ne dure guère et bientôt ce n'est plus une voûte au-dessus de nos têtes, mais au fond d'un faubourg, une maison perdue, où il fait froid l'hiver et chaud l'été, habitée d'araignées couvertes de poussière, où moisissent nos lettres d'amour fou, où les portraits sournoisement s'altèrent, où l'on se rend comme sur une tombe, et au retour, on se lave les mains, et l'on essuie une larme furtive à ses paupières lourdes, et l'on soupire. Mais l'aiguille de l'horloge tourne, les printemps se suivent, le ciel s'empourpre, les villes changent de nom. Et déjà, il n'y a plus de témoins, personne pour partager nos pleurs, nos souvenirs. Et lentement s'éloignent de nous ces ombres que nous cessons désormais d'évoquer, dont le retour nous glacerait d'effroi. Et voilà qu'un beau jour, nous avons oublié jusqu'au chemin menant à cette maison perdue, et suffoquant de colère et de honte, nous y courons. Mais là, comme dans les rêves, tout a changé. Les gens, les choses, les murs. Personne ne nous connaît, nous sommes des étrangers. On s'est trompé d'adresse. Et c'est alors que sonne l'heure la plus amère. Nous comprenons que ce passé ne saurait plus s'inscrire dans les limites de notre vie présente. Qu'il nous est devenu presque aussi étranger qu'à notre voisin de palier, que les morts, nous ne pourrions les reconnaître, et que ce dont Dieu nous a autrefois séparés se sont fort bien passés de nous, et même que tout est pour le mieux.
Merci beaucoup. On écoute peut-être ce que ça donne en russe, par la voix d'Anna Armatova.
Есть три эпохи у воспоминаний, и первая, как бы вчерашний день. Душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженству и тени. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственный, прощальный, незабвенный.
C'est une voix un peu vieillie, mais c'est une voix qui chante, hein. C'est la voix d'Armatova. On va parler cadence, scansion. Est-ce que les voix vous aident à traduire, Sophie Bénèche? Est-ce que l'entendre peut vous être d'un quelconque secours?
Disons que ça me touche énormément d'entendre sa voix, bien sûr. Mais vous avez entendu, la façon de lire russe est très déclamatoire. Elle paraît un peu étrange. Et encore, dans ce poème-là, elle est un peu moins que dans d'autres poèmes. Que ça peut être un peu désemparé, parce que pour les Français, pour la façon de lire la poésie en français. Mais oui, j'ai bien sûr que de toute façon, j'aime bien m'entourer de sa voix, de ses portraits, de souvenirs sur elle, bien sûr.
Alors, le texte n'est pas un texte universitaire, vous l'avez rappelé. Néanmoins, vous prévenez d'emblée qu'en russe, la langue ayant des accents toniques, la prosodie russe n'est pas syllabique comme en français, donc, mais tonique, c'est-à-dire fondée sur l'alternance de syllabes accentuées non accentuées. On va peut-être y revenir de façon un peu plus précise, parce que ça s'entend bien aussi dans le poème dont on va parler. Donc vous parlez de cette scansion particulière qui est celle du russe, et vous commencez par rappeler que la langue russe est bien plus économe que la langue française, hein, ce qui rend la chose infiniment compliquée, c'est-à-dire que le russe se passe parfois de sujet, se passe parfois de préposition, se passe même du verbe être, ce qui permet d'une certaine façon cette tension dans le vers d'ailleurs, hein, c'est-à-dire entre une forme de laconisme et de feu, qu'on sent bien chez Tsvetaeva aussi, et qu'on sent parfaitement chez Armatova. Comment maintenir cette concision? Cette concision-là, quels sont les subterfuges à l'œuvre?
Tout le problème est là. Et c'est là où c'est, à mon avis, plus facile de traduire Tsvetaeva, parce que comme elle a ses vers sont extrêmement syncopés, on peut aussi les syncoper en français. Et ça correspond aussi à des recherches poétiques qui ont déjà été faites en français. Tandis que le vers de la poésie de Armatova a quelque chose de très classique. On ne peut pas la syncoper comme ça et jouer avec la syntaxe. Comment on peut jouer avec quand on traduit Tsvetaeva. Donc en un sens, vraiment, je suis persuadée que c'est beaucoup plus difficile de traduire Armatova que Tsvetaeva. Je ne parlerai pas de Mandelstam, parce que lui, il est très difficile aussi.
Quand vous parlez de formes plus classiques, en fait, c'est ce que vous disiez au début, Sophie Bénèche, c'est-à-dire l'idée de cette clarté illusoire d'Armatova.
Oui. C'est-à-dire, en fait, comme dit Lydia Tchoukovskaya, c'est qu'elle... Ces trouvailles sont à peine visibles. Elles existent, mais elles ne sont pas aussi évidentes que celles de Tsvetaeva ou de Mandelstam ou de Khlebnikov. C'est pas...
Alors justement, sur ce que vous évoquez à l'instant, hein, ce que vous appelez des juxtapositions armatoviennes, Sophie Bénèche, c'est-à-dire le fait, dans ce poème-là en particulier, hein, celui que vous venez de nous lire, et puis dans beaucoup de ses poèmes, qu'elle alterne ou qu'elle juxtapose en tout cas des formes et des formules assez concrètes, parfois familières même, ou triviales. Là, vous parliez de la tache de moisie tout à l'heure, la tache d'encre dans ce poème-ci, et en même temps, tout d'un coup, l'irruption d'une sorte de vers extrêmement majestueux de sa manière.
De sa façon d'écrire, oui. Et puis, je repensais à tout à l'heure le texte de Tsvetan Todorov, hein, qu'on a entendu, qui parlait de quoi parle la poésie. La poésie parle de la vie. Et en fait, ça m'a fait penser que dans la poésie d'Armatova, il n'y a pas seulement ça. Elle parle de la vie, oui. Effectivement, la poésie tient à l'être du poète et pas à sa technique. Mais la poésie d'Armatova, c'est aussi, elle l'a dit elle-même dans le Requiem, c'est C'est un poème par lequel parle des millions de voix. C'est-à-dire, elle a voulu donner la voix, prêter sa voix à tout son peuple, à tous les gens qui ont souffert en Russie, puisque elle fait quand même partie de ceux qui ont voulu rester. La plupart de ses amis sont partis dans les années 20. Beaucoup lui ont proposé aussi de partir à l'étranger. Elle parlait bien français, elle aurait parfaitement pu émigrer.
Qu'est-ce qui l'a fait rester? C'est de rester dans
sa langue.
En fait,
elle a justement, au début du Requiem, il y a un petit quatrain. Le Requiem, c'est donc un livre qu'elle a de 17 poèmes qu'elle a écrit au moment où son fils et son troisième mari ont été arrêtés. Donc, c'est une sorte de... Par sa voix parle tous les gens qui ont été réprimés, et pas seulement les gens qui ont été réprimés, mais toutes les proches des réprimés, les mères, les femmes de ceux qui ont été assassinés pour rien. Et le premier petit quatrain qu'elle met en exergue, c'est « Non, je n'étais pas sous un ciel étranger, ni réfugié sous une aile étrangère. J'étais alors aux côtés de mon peuple, là où pour son malheur, mon peuple se trouvait. » En fait, elle n'a pas voulu... émigrée. Et pourtant, elle a tout de suite compris. Elle savait exactement ce qui l'attendait. Elle s'est jamais fait la moindre illusion sur le coup d'État bolchevique et le régime bolchevique. Et elle aussi, on parlait de la misère de Tsvetaeva, mais elle aussi, elle a souffert de la misère. Elle a passé toute sa vie dans un appartement communautaire qu'elle partageait avec l'ex-femme de son mari. Vous imaginez ce que c'est, et les enfants. Elle avait juste une pièce, elle avait une robe. Vraiment, elle a vécu, elle aussi, dans la misère. Et interdite de publication, on l'injuriait, on l'insultait dans les journaux à certaines époques. On la traînait dans la boue. Il faut imaginer aussi, sans parler du fait qu'on arrêtait son fils, que son fils a passé des années en camp, et que pour aucune raison, si ce n'est... Enfin, comme tout le monde, qui était arrêté sans raison.
C'est aussi pour ça qu'elle s'est tue, pour protéger son
aussi,
fils.
Oui. Elle-même, on ne l'a pas touchée physiquement, à part le fait qu'elle vivait dans la misère et dans un appartement communautaire et qu'elle n'était pas publiée. Physiquement, elle ne s'est pas retrouvée dans un camp comme Mandelstam, mais on l'a atteinte à travers les gens qu'elle aimait. Et combien ont été arrêtés parmi ses proches.
Je voudrais revenir, Sophie Bénèche, à quelques points de traduction. Alors, pour aborder tous les points de traduction, il faudrait lire votre essai, ce que je vous encourage à faire. Mais sur cette question, par exemple, de la difficulté à traduire ce que vous appelez ces vers majestueux d'Armatova, qui surgissent notamment dans cette élégie-là. Vous parlez notamment de ces deux vers, « Il n'y a plus de témoins, personne pour partager nos pleurs, nos souvenirs », qui sont donc deux vers sur lesquels vous vous attardez longuement. Et vous parlez de la beauté de ces vers-là. Où donc se cacherait la difficulté particulière à traduire ces deux vers-là, pour qu'alors évidemment dans les six versions, il n'y en a pas deux qui soient les mêmes, qui aient fait les mêmes choix. Et quelle solution vous avez trouvé au final pour traduire ces deux vers-là? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à rendre?
En russe, c'est « Но тыкают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов. И нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. On sent que les trois vers d'avant sont plus courts et plus cadencés, plus vivants, alors que les deux derniers, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. Évidemment, ce serait mieux s'il y avait un petit audio avec le livre et qu'on puisse entendre le texte lu en russe, mais c'est ça aussi on essaye de garder à l'esprit quand on traduit. Et je vous dis, là, dans cette traduction-là, j'ai évité un des plus gros écueils, qui est l'écueil des rimes, bien sûr. Est-ce qu'il faut obligatoirement traduire un poème rimé en rimé en français ou pas?
Ça, c'est la réponse n'est pas la même.
Il n'y a pas de réponse d'abord.
Non, mais les Russes vous diront, par exemple.
Beaucoup. L'école russe veut que ça soit rimé.
Parce que la poésie russe est une poésie rimée. Alors, pour Brodsky, par exemple, c'est une trahison total que de ne pas traduire la rime.
Voilà. Et par exemple, quand ils traduisent Baudelaire, ils font tout rimer, Verlaine est rimé en russe, dans les traductions russes. Donc, l'école russe, si vous voulez, tous les gens qui sont russophones et de l'école russe trouvent qu'il faut absolument rimer. On peut être d'un avis différent pour diverses raisons. D'abord parce que la poésie française n'a pas évolué de la même manière que la poésie russe. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des poètes, beaucoup de poètes qui écrivent en vers rimés, alors qu'il n'y en a plus beaucoup en français. Et puis, il est plus facile de rimer en russe qu'en français.
Ça tient à quoi?
Ça tient au fait que, par exemple, le fait que il y a des cas en russe, les mots se déclinent. Alors si vous dites, je sais pas moi, à l'accusatif une femme belle, grande et forte, tous les accusatifs, celui du mot femme et celui de tous les adjectifs, se termineront en ou et you. Donc vous pouvez faire rimer. En français, belle, grande et forte, ça rime pas. Donc il y a beaucoup plus de possibilités de rime en russe qu'en français. Le problème, c'est quand on veut absolument faire rimer, on est très souvent obligé de distordre le poème en français, d'enlever des mots qui sont dans le texte russe, en l'occurrence,
et d'en
mettre des qui n'y sont pas, sinon ça rime pas. Donc, personnellement, moi, j'ai pas de théorie, j'ai pas de principe, c'est-à-dire, il y a des fois, étrangement, où on arrive à les faire rimer, où le poème se traduit en vous avec les rimes quand ils sont rimés. Dans ce cas-là, parfait, si j'arrive à le faire, mais que ce soit naturel. Comme je dis dans ce livre, en fait, un poème, c'est un tout. C'est un tout qui respire. Donc, si par un miracle, il arrive que ça rime, tant mieux. Si je suis obligée de distordre complètement, d'enlever des mots, d'en rajouter, je préfère ne pas rimer. Essayez plutôt de trouver des allitérations, des échos, des mots qui se font écho pour se répondre.
Est-ce que ça veut dire qu'au fond, le poème d'arrivée, Sophie Benesch, c'est un poème français ou un poème russe?
Ah, je pense qu'il faut que ce soit un poème en français et il faut autant que possible qu'on y sente la voix du poète original. Mais le problème, et le suivant, c'est que si vous et moi, nous parlons russe et nous lisons le même poème russe, nous n'entendrons peut-être pas tout à fait la même voix. Donc, quand bien même nous essaierions toutes les deux de rendre cette voix, on rendra peut-être un peu différemment, non seulement parce qu'on la rendra différemment, mais parce qu'on l'aura entendue un peu différemment. Donc, ça vaut la peine qu'il existe plusieurs traductions, puisque personne n'entend tout à fait la même voix. Parce que c'est ça le plus important, c'est la voix.
Parce que cette question justement du lecteur d'arrivée, en fait, vous la posez, Sophie Benesch, aussi, par exemple, sur une chose toute simple, comme à un moment donné où elle parle dans le poème, Armatova parle d'appartement voisin, et qui peut être traduit en français par voisin de palier, qui ne serait pas évidemment pas la même chose, qui ne voudrait pas dire la même chose, mais l'un étant lié au fait qu'il y ait des appartements communautaires à ce moment-là, et l'autre étant lié en français à une expression qui existe courante du langage courant français, ce qui fait que le poème d'arrivée est un poème pour le lecteur français, et donc est un poème français,
bien
non
sûr,
pas un poème russe.
L'important, c'est de ressentir un poème. Donc, si vous êtes obligé pour comprendre de quoi il parle d'aller regarder une note, je trouve que c'est gênant dans la lecture d'un poème. Donc, personnellement, je préfère qu'il arrive naturellement, même s'il y a une toute petite distorsion, qu'il arrive naturellement jusqu'à l'esprit et l'âme, le cœur du lecteur, quoi.
Merci à toutes les deux, Vénus Kourigata et Sophie Benesch. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
J'aimerais lire un poème qui, je trouve, parle des deux poètes à la fois et qui s'intitule De Profundis, d'Akhmatova, bien sûr. De Profundis.
Je le connais bien.
Ma génération n'a pas goûté beaucoup de miel. Il n'y a plus que le vent qui hurle au loin, que la mémoire qui chante les morts. Notre tâche ne fut pas achevée. Les heures nous étaient comptées jusqu'à la fracture tant souhaitée, jusqu'à l'apogée du suprême printemps, jusqu'à la folle floraison. Il ne restait que le temps d'un soupir. Deux guerres, ô ma génération, ont éclairé ton terrible chemin.
Comme vous lisez bien, Sophie.
J'adore lire.
Très bien, on dirait une comédienne.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit, à la technique aujourd'hui. Fabien Capel, à la préparation Thierry Beauchamp, à la réalisation Nathalie Salle. Vous trouverez toutes les actualités de Sophie Benesch et Vénus Kourigata sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.